Voilà, comme il est 10 heures, nous allons commencer. Bienvenue à vous dans cette journée consacrée à la liberté humaine au défi des neurosciences. Journée qui conclut un séminaire de longue durée au Centre Sèvres sur ce thème dont je vais, à titre d'introduction, rappeler quelques éléments, quelques composantes avant de laisser la parole aux deux intervenants de la matinée qui nous fixeront le cadre général de cette réflexion. Donc ce séminaire Neurosciences et Liberté commença par une journée. Peut-être certains d'entre vous étaient présents il y a 9 ans, presque 9 ans, le 5 décembre 2009. Une première journée donc qui se voulait d'emblée transdisciplinaire. Et l'impulsion de cette journée avait été le livre du théologien Alexandre Ganozzi, Christianisme et neurosciences, qui était paru un an auparavant aux éditions Odile Jacob. Dans cet ouvrage, Alexandre Ganozzi s'efforçait de montrer que la tradition biblique avait déjà surmonté le dialogue âme-corps que mettent en question les recherches sur le cerveau. Et tout naturellement, ce fut son exposé qui ouvrit la journée. L'après-midi, nous avons entendu d'abord le professeur Marc Jeanneret, malheureusement décédé depuis lors, dont le livre « Le cerveau volontaire » était paru peu de temps auparavant aux mêmes éditions Odile Jacob et avait été aussi une source d'inspiration, ne serait-ce que par son titre qui dit bien « La réflexion sur la volonté en rapport avec le fonctionnement du cerveau ». Le troisième intervenant était le professeur Bernard Fels de Louvain, auteur de plusieurs articles sur ces thèmes. La conclusion de la journée avait été qu'il était important de continuer cette démarche et d'initier des rencontres régulières qui furent donc programmées dans les années suivantes. Rencontres programmées le samedi qui nous permettaient ainsi d'avoir la présence de participants d'autres villes de France, on peut dire de province, en particulier de Lyon, de Grenoble, salut Grenoblois présent ici, de Lille aussi. Donc trois journées habituellement par an ont été le menu de notre séminaire. L'accent sur le thème de liberté s'est aussi rapidement imposé. C'était l'un des axes de l'ouvrage de Marc Jeanneret, donc il réfléchissait sur les mécanismes de la prise de décision. Avons-nous affaire à un processus déterministe, un processus aléatoire, quelque chose d'autre? Si la connaissance scientifique rencontre des phénomènes du monde en les ramenant au hasard et ou à la nécessité, où placer la liberté? Question qui certes n'est pas nouvelle, presque ancienne comme l'humanité, mais les connaissances plus précises que nous avons acquises depuis quelques décennies sur le fonctionnement du cerveau font que cette question se charge de nouvelles harmoniques. La dimension théologique était d'emblée aussi fort présente, dans la mesure où l'affirmation de la liberté de la personne humaine se rencontre dès les premières expressions théologiques, comme en témoigne par exemple l'affirmation de saint Irénée, « Dieu a fait l'homme libre, possédant dès le commencement sa propre faculté de décision ». Je ne vais pas faire ici le résumé complet des séances que nous avons eues depuis 2010, à partir du 4 décembre 2010, je donne simplement quelques rappels, quelques indications sommaires qui diront déjà des noms et quelques thèmes. Première rencontre qui fixa le cadre plus, surtout philosophique, intervention d'Éric Charmetan, le cadre théologique, je suis intervenu ainsi que Bernard Fortum sur le thème de la volonté. En mai 2011, nous avons abordé la philosophie de l'action avec un exposé aussi d'Éric Charmetan et un autre de la philosophe Joëlle Proust. Les neurosciences proprement dites intervinrent à partir de la séance d'octobre 2011 grâce à des exposés de Christelle Apourchaud, que nous entendrons tout à l'heure, et d'Hervé Schneeweiss. Ce fut aussi l'objet de la séance de mars 2012, où intervinrent Jean-Paul Banquet, présent parmi nous, et Étienne Quéclin. Les séances suivantes, qui se succédèrent assez rapidement en début 2013, janvier, février, avril et mai 2013, furent consacrées essentiellement à la question du libre-arbitre. Après une présentation générale, on examina les apports de Cyril Michon, John Martin Fisher et David Wegener. Puis retour à la théologie en novembre 2013 grâce à une présentation de Jean-Baptiste Lecuy, que nous entendrons tout à l'heure, co-animateur, devenu entre-temps co-animateur du séminaire, sur grâce et liberté. Quelques suivantes, peut-être un petit peu plus disparates, en février 2014, l'un des participants du séminaire, Alain Stahl, présent ici, nous partagea sa réflexion sur déterminisme, hasard, vie et liberté. En mai, Véronique Destinto nous introduisit à la psychologie de la décision. L'année universitaire 2014-2015 fut orientée sur la lecture de quelques ouvrages un peu significatifs. En décembre 2014, le livre de Stanislas Dehaene, Le Code de la Conscience. En février 2015, le livre de Christelle Apourchaud, Un nouveau libre arbitre, issu de sa thèse. En mai 2015, nous avons reçu Serge Tisseron. La poursuite du travail, le dernier temps, fut ouvrir une dimension plus sociale. Le thème de novembre 2015 fut le cerveau social et la liberté, avec à partir de la lecture d'un ouvrage de Michael Gazzaniga. Et en février 2016, Joël Dolbeau, que nous entendrons aussi tout à l'heure, nous présenta son travail de thèse autour de Bergson. Et enfin, au mois de mai, la dernière séance du séminaire, mai 2016, Marie-Martine Ramanantsou nous présenta la question de l'empathie. Donc, on peut dire que la dimension sociale était un des fils conducteurs de notre réflexion. En effet, si dans la réflexion habituelle sur le libre arbitre, l'accent est mis d'emblée sur la personne individuelle, la liberté posée comme autodétermination par le sujet lui-même, ou comme le disait Bernard Fortum dans son exposé initial, comme puissance de commencer, eh bien on peut se poser la question de savoir où se situe ce commencement. Est-ce dans l'individu, dans son esprit, dans une chaîne causale antérieure, dans le contexte, Dieu lui-même? Faut-il reconnaître que l'idée de liberté viendrait de l'ignorance des causes de l'action? Les expériences de Libet, dont nous entendrons encore parler, et certainement nous sommes revenus à plusieurs reprises dessus, ont fait refluer dans une certaine antériorité la source d'une action éprouvée spontanément comme volontaire. Sans doute faut-il tenir compte du contexte, ce que ne font pas toujours les théories classiques, dans la mesure où la liberté de la personne se relie à d'autres libertés. Par là, nous rejoignons la notion de responsabilité, on est toujours responsable devant quelqu'un. Faut-il alors parler de cerveau social, voire d'intelligence collective? Conclut juste en disant que cette dimension relationnelle de la liberté est ce qui a été mis en œuvre dans nos échanges et ce qui sera de nouveau pratiqué dans les échanges qui s'ouvrent maintenant. Donc cette journée sera en deux temps. Ce matin, nous aurons une ouverture un peu plus large dans le champ de l'anthropologie philosophique et dans celui de l'anthropologie théologique. Et l'après-midi approfondira cette question autour de perspectives diverses relatives à ceux qui feront les présentations, à la fois phénoménologiques, bergsoniennes ou analytiques. Et puis cela ouvrira un nouveau champ de réflexion sur la liberté des intelligences artificielles. Je vais donc tout de suite laisser la parole au premier intervenant de la matinée, Éric Charmetan. Le titre de son intervention, « Quel impact des neurosciences sur le débat philosophique, liberté et déterminisme ?» Donc mise en contexte sous l'angle philosophique, anthropologie philosophique, de cette question aussi vieille que l'humanité de la liberté. Éric Charmetan, donc jésuite, professeur de philosophie ici au Centre Sèvres, membre du département d'éthique biomédicale, membre aussi du comité de rédaction de la revue LANEC, donc aussi impliqué dans le champ des questions relatives au monde médical, et aussi membre du comité de rédaction des archives de philosophie. Et ici, il est chargé de l'enseignement de philosophie de la nature, ces questions de philosophie des sciences, questions qui le mettent en rapport directement avec la question qui nous intéresse. Je lui laisse donc la parole.
Merci François pour l'introduction. Donc là, j'ai l'impression que le micro marche. Voilà, donc merci à vous d'être venus pour cette journée qui va essayer de nous faire avancer collectivement sur cette question ancienne de cette relation entre liberté et déterminisme et sur les évolutions que les recherches en neurosciences, en sciences cognitives pourraient apporter à ce débat qui est fort ancien, comme il a été rappelé. Alors pour commencer, j'aurais pu choisir d'autres textes parmi les stoïciens aussi. J'ai choisi ce texte de Lucrèce, un texte du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc dans La nature des choses, De rerum natura, où Lucrèce, qui est dans le courant épicurien, écrit « Enfin, si tout mouvement s'enchaîne toujours, et si toujours d'un ancien un autre naît en ordre fixe, et si par leur déclinaison les atomes ne prennent l'initiative d'un mouvement qui brise les lois du destin et empêche les causes de se succéder à l'infini, libre par toute la terre, d'où vient aux êtres vivants, d'où vient, dis-je, cette volonté arrachée au destin qui nous permet d'aller où nous conduit notre plaisir et d'infléchir nous aussi nos mouvements, non pas en un moment ni en un lieu fixé, mais suivant l'intention de notre seul esprit. » Or, ce texte pose, je trouve, avec une grande clarté, le dilemme qui est suscité par la physique atomiste de Démocrite. Si effectivement l'enchaînement des causes se fait uniquement suivant des lois, suivant surtout ici ce qui est mentionné, un destin implacable, quel sens peut-on encore donner à la liberté de la volonté et à la liberté de l'action humaine ? Certes, il serait possible de déclarer que la liberté n'est qu'une illusion. Pourtant, Lucrèce comme Épicure ne le font pas et prennent leur distance avec le règne universel de la nécessité de Démocrite. Afin d'articuler liberté et physique, Lucrèce propose d'introduire ce fameux clinamen latin, ce terme qui a été traduit par déclinaison. Cette déclinaison ou déviation des atomes en chute libre dans le vide, qui introduit du non prédictible dans le monde, et que Lucrèce présente comme la raison ultime de la liberté humaine. Or, cette solution pouvait sans doute en être conscient, enfin, n'a pas vraiment convaincu ses contemporains, et n'emporte guère l'adhésion aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'on. C'est un peu comme une solution ad hoc. On rajoute une petite déviation pour, en fait, arriver à articuler. Alors, ça se veut une forme, si vous voulez, enfin, aujourd'hui, on dirait peut-être une forme de compatibilisme, d'essayer d'articuler, enfin, les deux, mais on ne comprend pas bien d'où vient cette déclinaison des atomes, quel serait, au fond, cet enracinement. Or, depuis, il y a eu beaucoup dans l'histoire de la philosophie de réflexion sur cette question de l'articulation liberté-déterminisme. Et mon propos ne sera pas ici de faire un grand panorama de l'histoire de la philosophie, mais de plutôt, à partir d'un certain nombre de catégories qui sont souvent mises en avant dans les débats, s'interroger sur le sens des termes. Or, dans le support que je vous ai proposé, il est souvent, enfin, quasiment dans tous les livres, on trouve ce fameux tableau entre à double entrée, d'un côté cette question de savoir si la volonté est libre ou non libre, et puis de l'autre, si elle est déterminée ou non déterminée. Alors, et dans cette manière de voir les choses, eh bien, il y a plusieurs solutions possibles. Alors, dans les trois solutions qu'on trouve à la fois dans l'histoire de la philosophie et puis aussi plus récemment dans les débats, et on aura l'occasion de voir ça plus en détail dans un certain nombre de courants, par exemple la philosophie analytique, mais aussi d'autres courants, comment on se situe par rapport à cette question à la fois de la liberté de la volonté et de la question du déterminisme. Alors si on est dans l'hypothèse finalement que la volonté serait libre et déterminée, on est dans une forme de compatibilisme, ou parfois on appelle ça aussi de déterminisme faible. Si on est dans des versions où en fait on a une forme d'exclusion entre liberté et déterminisme, alors il y a un premier type où on pense que la volonté n'est pas libre, mais qu'il y a un déterminisme aussi de fort. Donc c'est le forme, en fait, ce déterminisme fort, enfin ce que j'ai appelé l'incompatibilisme de type 1. Et puis vous avez la deuxième autre solution, enfin dans une forme d'incompatibilisme entre liberté et déterminisme, cette fois-ci pour affirmer que la volonté est libre et que la volonté n'est pas complètement, en tout cas, déterminée. Et donc c'est ce qu'on appelle les formes libertariennes, libertariennes au sens de ce débat, et donc très différentes en fait du libertarianisme en philosophie politique, qui est une thèse en fait sur une forme de laisser-faire de l'État. Voilà. Donc ce tableau, en fait, il semble poser les choses assez clairement, apparemment, mais dès qu'on rentre un peu dans les détails, en fait, on se voit que il faut quand même préciser ce qu'on met sous les termes de libre, non libre, et puis de déterminé, non déterminé. Parce que, au fond, derrière ces conceptions, finalement, se joue sans doute plus de nuances que l'indique au premier abord ce tableau. Parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui, éventuellement, seraient plutôt agnostiques sur certaines de ces thèses, c'est-à-dire ne défendraient ni forcément le déterminisme, ni en fait le. Enfin, ils pourraient avoir une solution de liberté, par exemple, qui serait compatible en fait avec à la fois une détermination et une non-détermination de la volonté. Alors pour avancer, je me suis pas mal inspiré des travaux de Gerd Keil, qui est de l'université Humboldt de Berlin, qui, je trouve, en fait, arrive bien dans ses livres à souligner et à mettre en exergue ce flottement dans les compréhensions des termes de base liberté et déterminisme. De quoi parlons-nous effectivement quand nous employons le mot liberté ou libre arbitre ou liberté de la volonté? C'est vrai qu'en français on traduit plutôt libre arbitre. C'est le mot courant. Dans d'autres langues, la notion de volonté apparaît plus clairement quand on dit free will en anglais ou Willensfreiheit en allemand. Et donc cette question des termes et de l'usage est quand même vraiment important. Alors pour justement avancer dans cette version polysémique, il me semble en fait qu'il est vraiment utile de bien avoir les idées au clair de la distinction d'un côté entre une liberté de la volonté et puis de l'autre une liberté de l'action ou de l'agir, qu'on traduit en allemand par exemple Handlungsfreiheit, par rapport à cette Willensfreiheit. Donc la liberté de la volonté, ou le libre arbitre, c'est une manière de donner suite ou pas à ses désirs, ses inclinations, et de former des intentions pour agir. Ce qui est différent, en fait, de choisir ses désirs ou ses inclinations. Donc il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans la psychologie humaine qui fait qu'on est orienté vers tel ou tel choix ou telle inclination, et qu'en même temps, eh bien, on peut choisir d'aller dans telle ou telle direction. Et donc cette liberté de la volonté, c'est ce qui est mis en premier chef dans les débats sur déterminisme et liberté, mais il y a aussi Et donc, en fait, souvent dans les débats, il y a cette question de savoir si on peut faire, si on a une liberté ou pas de choisir entre deux alternatives. Donc, c'est souvent associé cette liberté de la volonté à cette liberté des alternatives. Alors, comme on le verra un peu plus tard, enfin, c'est pas la seule solution. On peut aussi se dire que j'ai la liberté de choisir ce à quoi je suis incliné, sans avoir forcément cette liberté des alternatives. Et puis, alors, le deuxième terme, c'est cette liberté de l'action. C'est au fond de dire que ce qu'on veut, on le peut. Et donc, je ne suis pas empêché de, finalement, de réaliser ce vers quoi ma volonté me porte. Et que cette question, en fait, de la liberté de l'action, on voit bien que par rapport au débat liberté-déterminisme, elle nous conduit vers des zones plus liées à la philosophie aussi politique. C'est-à-dire, je peux être empêché d'agir si je suis enchaîné, par exemple. Je peux avoir la volonté de lever le bras, mais si je suis enchaîné, peut-être que ça sera impossible. Voilà. Et donc, ça introduit, en fait, aussi vers quelque chose qui n'est pas forcément lié à la constitution humaine, je dirais, mais qui est lié aussi à des interférences extérieures qui font que je ne puisse pas être libre d'agir comme je le souhaite. Alors, quand on va au-delà de ces deux grandes distinctions par rapport à cette question de la liberté, il y a la question du déterminisme et comment comprendre, au fond, ce déterminisme. Alors, classiquement, trois types de déterminisme sont souvent mis en avant. Un déterminisme qui est causé par Dieu, donc Dieu qui est, on aura l'occasion, enfin, donc je vais pas trop développer ce point, donc d'en parler, enfin, Dieu qui déterminerait notre volonté ou qui déterminerait le cours des actions. Donc on voit bien toutes les questions qui peuvent se poser, enfin, et qui se sont posées en théologie par rapport à la question de la prédestination, c'est-à-dire de vivre dans un monde où tout est prédéterminé. Donc c'était une grande question, enfin, simplement pour le mentionner, du côté de la théologie chrétienne. Est-ce qu'on est déterminé à aller au paradis ou à l'enfer? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, donc par rapport à la question de, voilà, de la prédestination, de se dire, est-ce que finalement nos actions humaines ont un sens par rapport à une vision plus globale dans laquelle tout serait déterminé par Dieu? Et dans, je dirais que dans les formes en fait extrêmes, on rejoint cette question finalement ancienne qu'on avait déjà dans le stoïcisme, sous une forme de déterminisme par le destin, qui est en fait l'argument du paresseux. L'argument du paresseux, c'est se dire, si je suis dans un monde qui est complètement déterminé, que je suis malade, que j'aille voir le médecin ou que je n'aille pas voir le médecin, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que finalement nos actes humains ne, en fait, perdent complètement leur valeur? Alors, Chrysippe, enfin, en tout cas un certain nombre de stoïciens ont essayé de répondre pour dire qu'il y avait quand même un sens à consulter le médecin et de effectivement surmonter cette objection, mais en fait, on voit bien qu'on peut avoir ce même type d'objection dans une forme, en fait, de prédestination ou d'une vision d'un déterminisme, enfin, extrême, causé par Dieu. Alors, cette version extrême, c'est pas la seule, bien sûr. Et il y a d'autres visions, justement, de ce déterminisme de Dieu. Voilà. Alors ça, ces distinctions sont quand même importantes pour justement de voir de quoi on parle, parce que souvent dans les débats en neurosciences, On n'est pas forcément très clair de quel type de déterminisme on parle. Est-ce que c'est un déterminisme qui laisse aucune place à d'autres types d'explications, ou c'est un déterminisme local, global? Est-ce que ça concerne absolument tout de la vie humaine ou certains aspects? Donc ça demande en fait chaque fois, je trouve, à préciser de quoi on parle quand on parle justement de déterminisme au niveau de ces références à ces expériences en neurosciences ou en sciences cognitives. Alors on peut rappeler parmi les formes de déterminisme assez intégrales ce fameux démon de Laplace, donc qui est une des formes en fait du déterminisme suivant des lois de la nature, pour le coup, donc ni Dieu ni le destin, mais des lois de la nature. Nous devons donc envisager, enfin il écrit, nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Alors dans cette version, en fait, on voit que c'est lié effectivement à une vision des lois de la nature, une vision de la causalité. Alors c'est une vision de la causalité qui est liée aussi à la prédiction, prédictibilité, et que c'est pas non plus, enfin, la seule version possible, en fait, des lois de la nature. C'est-à-dire on pourrait avoir des lois de la nature sans qu'on puisse faire de prédictions très 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 faciles. Enfin, c'est le cas quand on a des systèmes chaotiques où finalement on a quand même des lois, mais on est incapable de faire des prévisions concrètes. Alors, est-ce qu'un tel déterminisme écarte totalement une liberté possible de la volonté? Est-ce qu'il faut le comprendre comme une forme particulière de destin? Je pense que c'est un lieu en fait de discussion au sens où en fait celui qui est capable de voir tout ça, on pense que c'est le regard de Dieu, mais c'est quelqu'un qui est en fait un peu à l'extérieur de ce monde, s'il peut voir tout ça. Et si c'est quelqu'un qui est dans le monde, se pose la question de savoir est-ce que vraiment il n'a aucun moyen de connaissant aussi ses lois, est-ce qu'il ne peut pas aussi avoir une certaine liberté de la volonté? Et il me semble que pour répondre à ces questions, justement, à la fois dans une certaine description des lois de la nature, une forme de déterminisme apparemment assez implacable, d'enchaînement de causes et d'effets, et puis de l'autre, bien l'expérience humaine, dont l'anthropologie philosophique aussi essaye de rendre compte, et qui fait que, malgré tout, alors peut-être c'est une illusion, mais en tout cas, on a l'impression que si je choisis, je ne sais pas, d'ouvrir une porte plutôt qu'une autre, je le peux. Que si je choisis de lever ou pas mon bras, je le peux. Et que finalement, il faut sans doute, à la manière de Kant, considérer qu'il y a une tension effectivement forte, mais que cette tension n'est pas non plus complètement, n'est pas non plus forcément une négation de la liberté. Alors on peut rappeler ici la troisième antinomie kantienne, telle qu'elle est exprimée dans la critique de la raison pure. Donc, de manière très brève, Kant nous dit... il faut tenir ensemble deux thèses qui sont contradictoires, apparemment contradictoires. Donc première thèse, la causalité suivant les lois de la nature n'est pas la seule d'où puissent être dérivés les phénomènes du monde dans leur ensemble. Il est encore nécessaire d'admettre, pour les expliquer, une causalité par liberté. Voilà. Donc le Kant dit, pour rendre compte de l'expérience humaine, on est quand même obligé de poser une causalité par liberté. Alors il faudra comprendre qu'est-ce que ça peut être, cette causalité par liberté. Et de l'autre, l'antithèse, il n'y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive suivant les lois de la nature. Il n'y a pas de liberté, mais tout dans le monde arrive suivant les lois de la nature. Alors pour Kant, cette troisième antinomie, elle fait partie des antinomies dites dynamiques, donc dont les deux termes sont vrais. Et donc il faut pouvoir arriver à articuler ces deux choses. Alors pour Kant, effectivement, cette expérience de la liberté, elle est quand même une forme de postulat pour rendre compte, au fond, de l'action humaine et de l'expérience. Et que si on reste simplement dans une vision en forme de description des lois de la nature, on passe à côté de ce qui est important dans l'expérience humaine. Alors après, sur la question de comprendre cette causalité de la liberté, on peut dire, pour Kant, si on suit sa philosophie morale, il est quand même sensible aux raisons, par exemple, qu'on donne pour son action. Est-ce que les raisons que je donne pour les maximes, est-ce que les maximes de mon action peuvent devenir des lois universelles? Est-ce que en agissant, je traite toujours autrui, jamais simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin? Donc il a un certain nombre d'indications qui nous dit quel type, au fond, de raison on peut mobiliser, enfin, quelle que ça pourrait être cette forme de causalité par liberté. Alors dans le débat, enfin, et puis je vais avancer quand même, dans le débat, il y a aussi par rapport à cette question, et Kant essayait en tout cas de réagir par rapport à ça, enfin non seulement par rapport à ce déterminisme des lois de la nature, mais aussi par rapport à la philosophie de Hume, au fond, une autre position qui prendrait pas directement position sur la question du déterminisme des lois de la nature, mais qui prendrait quand même position sur la question du déterminisme de notre volonté du fait d'un certain nombre d'associations psychologiques. Et donc c'est une forme de déterminisme psychologique au fond où disons que ça serait pas directement la biologie ou les neurosciences qui nous diraient que nous sommes déterminés, mais où ça serait quand même au niveau de notre vie mentale, eh bien on s'apercevrait qu'il y a quand même un certain nombre d'enchaînements, de régularités, de choses qui se sont construites, d'habitudes, et que finalement notre volonté est beaucoup moins libre que ce qu'on entend. Donc on a la possibilité d'agir suivant ses habitudes. Alors après, il y a quand même la possibilité éventuellement de les modifier, mais vous voyez, on introduit, en fait, c'est une manière de sortir, en fait, de ce ce débat, et donc pour justement sortir de cette vision purement d'un déterminisme physique. Après, dans d'autres solutions qui sont apportées, enfin, et qui ont été reprises, alors c'est pour ça que je les cite, enfin, dans les débats contemporains, notamment par Marcus Gabriel, un philosophe allemand, cette question du déterminisme de la raison suffisante de Leibniz. Alors Leibniz, dans un texte de la Théodicée, explique justement « jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante. c'est-à-dire qui puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. Donc, il y a une cause ou du moins une raison déterminante. Alors, tout l'enjeu, en fait, par exemple, pour Marcus Gabriel, c'est de dire que, avec ce principe de raison suffisante, il faut penser qu'on n'a pas simplement affaire à des causes aveugles, mais qu'il y a aussi, en fait, des raisons à nos actions, et qu'il faut, et que justement, enfin, ce type de pensée nous permet d'articuler les deux. Alors, on peut se dire, enfin, ça reprend d'une autre manière aussi, enfin, ce que cherchait à faire Kant, mais justement avec cette question, enfin, de cette raison suffisante. Alors, simplement, continuer un petit peu sur Marcus Gabriel, il est quand même assez sensible au fait que dans les descriptions de l'action, on peut avoir ce qu'il appelle une liste vertueuse ou une liste vicieuse de la description des raisons de l'action. C'est-à-dire, je peux toujours charger, pour expliquer n'importe quel comportement, je peux dire, au fond, c'est parce que j'avais tel désir égoïste. Alors, il a l'exemple, en fait, de Roméo qui aime bien Juliette. Dans la liste vicieuse, il met par exemple Roméo aime bien Juliette, mais uniquement à cause d'une disposition génétique. Roméo a suffisamment d'argent pour acheter la rose qu'il va offrir à Juliette, etc. Et donc on peut toujours d'établir une forme de liste de raisons qui seraient purement, pour lui en tout cas, vicieuses, par rapport à une liste qui serait un peu plus ouverte et qui, justement, permettrait de donner d'autres motifs que simplement des formes de causes plus ou moins aveugles dans la description de l'action. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc venir à ma... Donc, simplement, peut-être pour terminer sur cette question, des déterministes, de toute façon, on aura l'occasion dans les autres interventions de revenir vraiment aussi sur un certain nombre de solutions, de pistes pour avancer sur la question aussi du déterminisme spécifique ou déterminisme global, parce qu'on est quand même de plus en plus sensible aussi à la différence des niveaux dans les sciences, et que autant pendant longtemps on a cru que la physique était le modèle vraiment ultime d'explication causale, autant aujourd'hui on est plus sensible au fond à d'autres modèles d'explication qui viennent par exemple de la biologie, et dans lequel en fait on a très peu de lois universelles. On a des modèles, on raisonne par analogie, on a des causalités, effectivement, des régularités, mais où il y a toujours des exceptions. Et donc, ça nous fait sortir, en fait, de modèles de la causalité où on est simplement dans une forme d'uniformité, et puis qu'il n'y a pas du tout d'exception à ces lois. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi tout un courant, et on aura l'occasion aussi d'y revenir, de réflexion sur qu'est-ce que c'est que vraiment la causalité, comment la penser, est-ce qu'on est obligé de passer par la notion de loi universelle, quelque chose qui a eu du succès. C'est vrai qu'en astronomie, ça a un succès assez certain. Mais en tout cas, pour rendre compte de ce qui se passe au niveau du vivant et puis au niveau du cerveau, il y a une complexité, des niveaux de description du réel, en fait, où la notion d'une causalité aveugle et en tout cas mise en question. Alors, dans ma deuxième partie, je voudrais venir quand même au cœur de ce que je voudrais dire aujourd'hui, sur qu'est-ce que les neurosciences peuvent changer sur le débat liberté-déterminisme. Dans un premier temps, faire droit à un certain nombre d'expériences qui ont été apportées. Alors, certaines seront présentées aussi cet après-midi. Donc il y a des expériences en fait qu'on appelle aussi d'expériences d'illusion de contrôle, où les personnes en fait sont conduites à un mauvais jugement sur l'attribution de leurs actions. Alors l'expérience, enfin, on en a parlé aussi dans l'introduction, enfin de d'Anne Wegner, donc où on avait une personne, enfin des personnes qui ont une souris, qui sont face à un écran d'ordinateur où il y a un certain nombre d'objets dessus, et puis en fait on leur met aussi un casque sur les oreilles, et en fait donc au départ c'est eux qui bougent la souris, mais en même temps qu'on va leur passer aussi de la soit de la musique, soit en fait il y a des mots qui sont dits, en fait un opérateur extérieur va bouger la souris à leur place, et après on va leur poser la question de savoir justement est-ce que c'est eux qui ont été en fait l'agent de ce mouvement, enfin de ce déplacement de la souris sur cet objet. Et en fait dans un certain nombre de cas ils se trompent. Alors on peut faire des tests sur la durée, enfin de l'exposition aux mots, enfin qui va en fait par exemple si l'opérateur déplace sa souris sur admettons une petite baleine, et si on entend le mot baleine on est un peu influencé pour dire oui, c'est moi qui ai en fait déplacé la souris, voilà. Alors il y a des expériences plus subtiles aussi, où enfin bon, on a parlé de Marc Jeanneret, enfin sur et justement dans le cerveau volontaire, il rencontre aussi d'un certain nombre d'expériences sur effectivement au niveau de la vue, du champ visuel, progressivement on s'aperçoit plus, enfin on sait plus très bien si c'est soi-même, enfin qui bouge la main ou si voilà, ou si c'est un autre agent. Donc des expériences en fait où la conscience en tout cas d'être vraiment l'agent ou pas d'une action est mise en défaut. Vous avez des expériences de priming en anglais ou amorçage inconscient, donc qui influe l'action. Donc ça peut être là aussi, enfin des présentations de mots ou des dessins qui représentent plutôt un être vivant, et puis vous devez compléter des lettres d'un mot, et puis vous êtes quand même plus tenté de choisir un mot qui va désigner un être vivant plutôt qu'un être inanimé, enfin, compte tenu de ces présentations enfin, inconscientes de. Voilà. Et puis alors il y a quelque chose qui est plus du côté de la psychologie expérimentale, enfin, c'est-à-dire tous les biais cognitifs de nos décisions. Alors on en parle beaucoup dans l'actualité. Autour de la manipulation au niveau politique, mais il y a d'autres manipulations qui pourraient être à bon escient éventuellement, ce qu'on appelle les nudges, dont c'est par exemple à la cantine, dans une cantine, de placer les plats dans un certain ordre pour qu'à la sortie, vous ayez un menu qui soit bien diététique. Donc, en fait, utiliser les biais de la psychologie humaine pour justement influer sur votre choix. Alors, il y a un certain nombre de débats sur cette forme de ce qu'on appelle le paternalisme faible. Est-ce que, au niveau de la société, on doit orienter un certain nombre de choix pour des bons résultats au niveau de la santé publique? Alors, ensuite, il y a troisième type d'expérience, c'est les expériences de Benjamin Libet. Alors, il y aura, je sais, plusieurs présentations. Alors, peut-être juste pour vous montrer. Enfin, donc, c'est quelqu'un. Alors, j'ai juste une petite vidéo, enfin, qui va illustrer la chose de 2 minutes. Alors, si le. Et je suis obligé de sortir aussi un amplificateur portable parce qu'il y a un problème de câble qui est trop court, tout simplement. Alors c'est une petite vidéo aussi en anglais, j'espère que ça ne sera pas un problème, mais en tout cas qui est assez humoristique. Voilà, je reprends parce qu'il y a eu un problème de son.
Put your hand in front of you and flex your wrist. You presumably first had a thought. Flex my wrist. That then caused your wrist to move. That's how it seems. But Benjamin Libet's experiments in the 1980s have cast some doubt on that. In his neuroscience lab, he wired up subjects to an EEG machine measuring brain activity via electrodes on their scalps, and then asked them to choose to perform a simple hand movement when they felt like it. He also got them to record the time at which they made a conscious decision to move their hands. Disconcertingly, he found evidence of brain activity initiating the movement hundreds of milliseconds before the conscious decision was reported. In other words, his experiments seemed to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Some people think this is proof that free will is an illusion, that our conscious decisions are more like reports on what is already happening than the causes of our action. Libet didn't go that far. He thought that we might not have free will, but there's still time for what some have called free won't, a conscious veto of an action that is started in the brain. Others are more skeptical about the implications of these experiments. They point out difficulties of recording the time of a subjective decision to move and question whether Libet's findings could apply to more complex conscious decisions based on reasons, such as the decision to reject the claim that Libet's experiments undermine our idea of free will.
Voilà, donc une présentation humoristique de cette situation où, vous voyez, enfin, il y a quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton et puis, en fait, reporter à quel moment, avec ce point enfin, qui tourne, à quel moment, en fait, il a décidé. Et puis, on voit qu'il y a une préparation motrice qui anticipe, en fait, la décision consciente de 300, enfin de 350, 500 millisecondes. Enfin, on aura l'occasion, enfin de, je crois, d'y revenir plus en détail. Donc, j'apporte simplement cette expérience de manière assez générale pour dire que c'est un des lieux, en fait, l'expérience sans doute la plus citée dans ces débats, comme mise en cause au fond de ces réflexions sur le libre arbitre, sur la liberté de la volonté. Et puis, la dernière grande catégorie, au fond, ce sont ce qui vient de l'expérience médicale, et notamment l'impact des lésions cérébrales sur un certain nombre de comportements. Or, l'expérience, enfin, disons que le cas le plus célèbre qui est cité, c'est celui de Phineas Gage, donc celui qui travaillait sur les chemins de fer. Donc dans les années fin des années 1840, donc qui en fait a reçu suite à une explosion, enfin qui s'est mal passé, enfin il a reçu une barre de mine qui lui a traversé le cerveau, et donc en fait suite à ça, son comportement social a changé beaucoup. Lui qui était sociable, fiable, il devient beaucoup plus irritable, grossier, et finalement ce genre de lésions disent, est-ce que finalement un certain nombre de nos comportements ne sont pas complètement préemptés ou dirigés par certaines zones du cerveau et le bon fonctionnement de ces zones. Il y a le cas aussi, enfin, qui est assez souvent apporté, enfin, celui des psychopathes. Est-ce qu'ils ont un cerveau particulier qui permettrait d'expliquer leur manque d'empathie et le fait d'avoir aucun remords pour ce qui, pour les actes criminels qu'ils peuvent commettre. On a aussi des cas qui peuvent venir effectivement du côté de la schizophrénie aussi, enfin, sur la question de l'attribution d'un certain nombre d'actions. Alors les conséquences philosophiques, me semble-t-il, enfin, de ces différents résultats à la fois empiriques, enfin, venant des neurosciences et des sciences cognitives, c'est que, au moins pour les deux premières, donc ce que je disais sur à la fois enfin, les expériences de Wegener et puis sur les questions de l'amorçage ou des biais cognitifs, ça en fait souligne que l'esprit humain est très faillible. C'est-à-dire que nous pouvons nous tromper. Alors, ce qui, on peut dire, c'est pas nouveau. En fait, la question de l'erreur, de la connaissance ou de ce qu'on peut connaître, c'est aussi vieux que la philosophie. Enfin, vous avez été de Platon sur cette question. Mais ce qui est quand même nouveau, je trouve, c'est le fait qu'on comprend mieux les conditions des erreurs. On comprend mieux aussi les possibilités de manipulation, en fait. Donc il y a quelque chose en fait qui est un peu nouveau du côté d'une perception plus fine des sources en fait de la faillibilité de l'esprit humain. En même temps, par rapport au débat philosophique liberté-déterminisme, c'est pas un argument qui est absolument décisif parce que on va vous dire l'objection, c'est de dire on s'intéresse quand même plutôt au fonctionnement normal. Donc, quelqu'un qui défend la liberté de la volonté, il peut tout à fait admettre que l'esprit humain, enfin que on peut se tromper beaucoup, mais qu'il y a quand même, dans certains cas, il y a quand même dans certains cas où ça a du sens de parler de la liberté. Alors, les expériences de Libet sur cette forme d'illusion de la décision consciente. Ben, là aussi, on peut effectivement critiquer peut-être le style d'expérience est-ce par rapport à une décision qu'on peut prendre. Je crois que cet après-midi, un certain nombre des orateurs vont revenir là-dessus, donc je ne vais pas trop détailler sur les réponses en fait ou les objections philosophiques qu'on peut faire à ces expériences. Mais en tout cas, dans les débats, c'est pas une expérience finalement qui a permis d'apporter un élément massif pour trancher dans un sens ou dans un autre par rapport à la question du déterminisme. Alors les questions, les cas de la pathologie, là aussi on peut dire on est en dehors du fonctionnement normal et ça nous dit quand même effectivement qu'il y a un certain nombre de zones du cerveau, par exemple les zones du cerveau préfrontal, enfin qui sont quand même importantes dans la décision, et que ceux qui ont des tumeurs au cerveau dans ces zones qui sont opérées, enfin, on voit bien un certain nombre d'effets comportementaux réels. Simplement, ça ne dit pas, que l'être humain serait complètement libre, enfin complètement déterminé, parce que dans un fonctionnement normal, enfin, là aussi, enfin, on remarque qu'il y a quand même des possibilités d'alternatives et que c'est pas simplement une illusion. Enfin, ou en tout cas, ceux qui veulent nous dire que c'est une illusion, il faut qu'ils nous apportent de bons arguments pour absolument nous faire croire que c'est une illusion. Alors, par rapport aussi à ces conséquences philosophiques, vous pouvez avoir une réponse qui est vraiment sceptique, qui va insister à partir de critères épistémologiques sur les limites assez fortes des connaissances apportées par les neurosciences et les sciences cognitives. Et de fait, on peut faire un certain nombre de critiques. Enfin, il y a sur les corrélations qu'on fait avec des flux sanguins, donc on n'est pas tellement au niveau directement des neurones, ça dépend des techniques. La résolution des instruments est vraiment très grossière. On fait des moyennes individuelles, inter-individuelles, etc., enfin, qui posent beaucoup de problèmes chaque fois. Donc on peut avoir une forme de réponse qui soit purement, effectivement, d'un point de vue épistémologie de ces sciences et finalement de type de connaissances que ça peut apporter. Donc, je trouve par exemple quelqu'un comme Denis Forest, enfin, dans son livre « Neuroscepticisme », en tout cas, il rend attentif à ces problèmes en fait épistémologiques liés à l'usage des neurosciences, parce que de fait, dans les débats et en tout cas dans ce qui se passe au niveau du grand public, l'image cérébrale a une force de conviction qu'un raisonnement philosophique derrière semble un peu faible par rapport à une forme d'essentialisation de certains attributs, sachant que en fait cette image elle est produite à partir de beaucoup d'hypothèses, à la fois des processus qu'on étudie et puis de limites liées à l'expérimentation. Voilà. Donc pour dire au fond que ces expériences, à mon sens, ne permettent pas de trancher de façon décisive dans ce débat liberté-déterminisme, et que en fait je trouve que ça invite plutôt à questionner ou à relire, et c'est le sens. Alors je vous ai cité ce livre de Sven Walter, donc en allemand, donc un livre, Illusion freier Wille, Grenzen einer empirischen Annäherung an ein philosophisches Problem. Donc dans ce livre, en fait, il est très sensible à, justement, dans un dialogue avec un certain nombre de chercheurs, notamment allemands, enfin, qui font des expériences sur cette question de la liberté de la volonté, de questionner au fond, enfin, quel type de déterminisme et de conception de la liberté ils ont en tête, et aussi quelles sont, aussi quelle est la nécessité pour eux peut-être de préciser davantage, ce qu'ils veulent dire quand ils nous disent que il y a une illusion de la liberté. Or, ceci étant, il me semble que malgré tout, même si dans ce débat liberté-déterminisme, ça n'apporte pas peut-être une contribution absolument décisive qui nous ferait dire il faut absolument choisir le compatibilisme ou choisir le libertarianisme, parce qu'en fait, dans les débats philosophiques, d'autres types d'arguments sont mobilisés. Il me semble que tout même ça a quand même un impact assez fort sur la philosophie morale et sur le droit. Alors c'est peut-être pas directement autour de cette thèse plus d'anthropologie philosophique sur cette question de la liberté de la volonté, mais quand même sur les biais de nos décisions, et que ça a un impact effectivement pour évaluer la responsabilité morale et le type de peine qu'on doit éventuellement donner. Alors pour indiquer quelques exemples en fait de cet impact, il y a eu quand même plusieurs grands arrêts récents de la Cour suprême des États-Unis qui concernent les jeunes adultes et les mineurs. Par exemple, il y a eu en fait en 2005 l'interdiction de la peine capitale pour les mineurs. Et quelle était la raison qui était avancée ? C'était la prise en compte de la maturation du cerveau et de l'insuffisant contrôle de l'impulsivité chez des adolescents. Donc il faut attendre en gros 25 ans pour que en fait ce contrôle soit pleinement établi d'après un certain nombre d'expériences qu'on fait justement en neurosciences. L'interdiction aussi de peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour des mineurs en 2012. Et il y a eu aussi un certain nombre d'études du côté du droit pour voir quels étaient les biais dans les jugements, quels sont les biais dans les décisions prises par les juges. Est-ce qu'il y a des biais raciaux, un certain nombre de choses qu'il faudrait prendre davantage en compte pour justement avoir un système de peine qui soit plus juste. Alors, il me semble aussi que ça a des impacts du côté de l'éducation, autour de la détermination ou de la compréhension plus grande de ces biais cognitifs, parce qu'on voit bien que s'ils peuvent être utilisés pour nous manipuler, le fait d'en devenir conscient, ça, malgré tout, enfin, et dans l'hypothèse où cette liberté malgré tout existe, nous pouvons aussi nous adapter et en tenir compte, ou en trouver, avoir des stratégies d'évitement, ou en tout cas de minimisation des conséquences de ces biais cognitifs. Et il me semble en fait qu'on a quand même des indices pour voir que les gens sont quand même qu'on peut quand même être conscient d'usages vraiment négatifs, et que au niveau de la loi on peut interdire certains types d'influences, par exemple si on vous met des odeurs spécifiques qui vont influencer vos comportements d'achat ou des choses comme ça, d'interdire ce type de produit. Voilà. Et puis pour conclure et respecter le temps, il me semble en fait que ça peut aussi, peut-être dernière chose, ça peut nous renseigner, ce type de recherche, au fond, sur les origines des capacités neurobiologiques qui sont nécessaires à la liberté de la volonté. Donc dans une approche à la fois évolutionnaire et et des neurosciences, et de se dire quelles sont peut-être les briques nécessaires justement à cette liberté de la volonté. Parce que en fait, quand on étudie la philosophie ancienne, je peux prendre juste un exemple, celui d'Aristote. Bien sûr, il dit que l'âme intellective, c'est ce qui est le propre de l'homme, mais par exemple, il s'interdit pas de dire qu'il peut y avoir de l'intelligence pratique, de la phronésis, chez les animaux, chez d'autres animaux que l'être humain. Donc en fait, il me semble que ce genre de recherche aussi peut aider à saisir plus finement qu'est-ce qui fait la différence humaine du côté de cette liberté de la volonté, et est-ce que ça a un sens? Enfin, si on dit qu'il y a une forme de sagacité chez certains animaux, est-ce qu'on peut appeler ça une liberté de la volonté? Enfin, ou est-ce que sans doute c'est aller un peu loin par rapport à ce qu'on met sous le terme au niveau humain? Et alors je n'ai pas pris position aussi, juste pour finir, je n'ai pas pris position savoir est-ce que je suis libertarien ou compatibiliste. Bon, il me semble en fait que il y a dans les formes, un certain nombre de formes actuelles, en fait, la différence entre compatibilisme et libertarianisme n'est pas aussi nette, c'est-à-dire dans le sens où on insiste en fait sur des formes de détermination faible, et puis de l'autre côté de non-détermination, mais tout en disant qu'il y a quand même un certain nombre de déterminations. Donc la frontière entre les deux lignes du tableau n'est peut-être pas aussi nette qu'on pourrait le penser. Donc il me semble en fait qu'on peut quand même soutenir une forme de déterminisme, de déterminisme partiel. Quand on dit déterminisme partiel, ça veut dire aussi qu'on pense qu'il y a quand même une partie non déterminée. Donc merci en tout cas pour votre attention, et puis on va donc donner la parole pour la suite vers son théologique, et on aura donc des questions, mais simplement après les deux interventions.
Voilà, merci. Merci Eric pour cette première introduction philosophique, ce panorama général. La parole maintenant est à la théologie. Voilà, le temps que... installé. Voilà, il y a un document à la porte. Voilà, invité à prendre sous les yeux.